France Inter, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
Bonjour à tous. L'actualité ces dernières semaines a été particulièrement marquée par les faits divers parfois d'une extrême violence. Une femme brûlée vive par son ex-conjoint, une fonctionnaire de police égorgée, le meurtre d'une jeune fille de 17 ans par un adolescent, le double assassinat dans les Cévennes, un féminicide par défenestration, le meurtre d'un policier, et j'arrête ici cette liste sordide. Les faits divers sont le miroir le plus sombre de notre société et cette actualité brutale impose un traitement éditorial particulier aux journalistes qui ont la responsabilité d'en rendre compte au grand public. Vous avez d'ailleurs été nombreux à nous écrire au sujet de ces différents faits divers. Et au menu de vos interrogations et de vos remarques, différentes questions. Pourquoi choisit-on de parler d'un fait divers plutôt qu'un autre? Pourquoi le nom d'un forcené n'est-il pas systématiquement donné à l'antenne? Ou pourquoi dans certains cas le nom d'un assassin est passé sous silence, comme s'il s'agissait d'éviter une forme de stigmatisation? Des questions complexe que nous allons évoquer aujourd'hui avec Jean-Philippe Degnaud, chef du service police-justice de France Inter. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et Jacques Monin, directeur des enquêtes et de l'investigation à Radio France. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On est face véritablement à une officine du crime qui a le passage à l'acte très facile. Pour 50 000 euros, on peut faire tuer quelqu'un. Allons-y.
Voilà, celui que vous venez d'entendre, c'est Jean-William Vézinet, c'est l'avocat d'une des victimes dans l'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Une affaire, je vous le disais, hors norme, sur laquelle la police enquête depuis l'été dernier, et qui a éclaté lorsqu'on découvre que deux hommes s'apprêtent à tuer une chef d'entreprise, c'est à Créteil.
Une fonctionnaire de police de 49 ans est morte, poignardée en début d'après-midi à Rambouillet, à l'entrée du commissariat.
Vers 19h45, hier soir, c'était la dispute de trop, près de la fenêtre, empoignade de plusieurs minutes, puis la victime bascule depuis son appartement. Les pompiers arrivés sur place n'ont pas pu ranimer la femme de 45 ans.
Jean-Philippe Degnaud, pourquoi certains faits divers sont-ils traités sur l'antenne et à contrario, pour quelles raisons certains ne sont pas relayés? Selon quels critères évaluez-vous la couverture éditoriale, l'importance à accorder à un fait divers? Et d'ailleurs, à ce sujet, une auditrice nous a écrit tout récemment, un féminicide en Haute-Vienne n'a pas été relayé sur votre antenne. La mère de trois enfants a été tuée par son ex-conjoint qui a ensuite mis le feu à la maison où les enfants étaient enfermés. Pourquoi ce silence au niveau national de votre part?
Alors, bon, le choix des faits divers relève de nombreux critères, en particulier sur l'antenne de France Inter, qui n'est pas une radio de faits divers. Je dirais plutôt que c'est une radio de faits de société. Donc, on va s'intéresser davantage aux faits divers dont les enseignements nous permettent de connaître les lacunes de notre société, d'y répondre aussi, parfois, bien sûr. On est là aussi pour éclairer des faits divers traités par d'autres médias et dont la dimension nécessite que nous apportions notre propre éclairage, nos propres explications. Enfin, j'allais dire plus prosaïquement, eh bien, on est comme tous les autres médias de presse écrite ou médias audiovisuels. Nous sommes contraints par des espaces de diffusion. Les journaux de France Inter ne sont pas extensibles. Et puis, chaque jour, pour chaque journal, la rédaction fait des choix afin d'être le plus large possible dans le traitement de l'actualité en général. Il arrive bien entendu que certains faits divers ne peuvent pas être traités faute de place, tout simplement.
Jacques Monin.
Moi, je dirais que on traite des faits divers justement parce que ce ne sont pas des faits divers. Moi, j'ai horreur de cette appellation faits divers, comme si ça faisait partie du tout venant. Non, ces faits-là sont justement des faits exceptionnels qui témoignent d'un trouble majeur à l'ordre public et qui deviennent de fait des affaires publiques. Et c'est vrai que nous, enfin, à la cellule d'investigation de Radio France, on s'intéresse plus particulièrement aux affaires dites systémiques, c'est-à-dire c'est ce que disait Jean-Philippe, qui disent des choses de l'évolution de notre société et qui posent des questions. Donc, c'est surtout ça, un fait divers n'est pas un fait divers et c'est pour ça qu'il devient un fait médiatique et donc d'intérêt public.
Jean-Philippe Degnaud, comment le service police-justice travaille sur les faits divers en général ?
Ah bien, j'allais dire le plus largement possible, surtout au moment du recueil des éléments. On va travailler avec nos sources habituelles, les parquets essentiels, la justice essentielle, les sources policières, les avocats, le cas échéant, les témoins au sens large du terme. Et puis, on va ensuite recouper, demander des confirmations, des démentis parfois. Nous allons trier, nous allons évacuer tout ce qui nous paraît pas suffisamment consolidé.
Parfois, au service de la médiation, des mails d'auditeurs nous demandent que les journalistes de la rédaction enquêtent sur un meurtre qui ne fait pas l'objet d'une attention médiatique particulière. Quelle suite donnez-vous à ce type de demande ?
Alors, bon, les demandes de ce type qu'on reçoit concernent le plus souvent des affaires privées qu'on va évidemment pas traiter, mais souvent je conseille tout simplement l'auditeur d'entrer en contact avec un avocat ou avec un procureur s'il s'agit de déposer plainte. Chacun son métier, j'allais dire, sur ce plan-là. Et puis on a souvent des messages d'enquêteurs en herbe, je dirais, qui croient avoir découvert des solutions à des crimes inexpliqués, par exemple, et bon, presque toujours avec des réponses un peu farfelues.
Est-ce que les réseaux sociaux peuvent vous influencer pour donner davantage d'écho à un fait divers ?
Alors, influencer, je dirais pas vraiment influencer, mais pour autant, on va pas les négliger. Les réseaux sociaux sont un certain reflet de ce que vit une société. Donc, le tout, c'est d'en prendre la juste mesure. Je préfère dire qu'on sera attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que l'on puise parfois des informations qui vont être intéressantes. Et puis, parfois, on a la nécessité d'y répondre quand, par exemple, ce sont des informations qui circulent en masse sur les réseaux sociaux. Et quand elles sont fausses, évidemment, il est important d'apporter des démentis.
Et ce sont des sources d'informations aujourd'hui, les réseaux sociaux, y compris pour traiter les sujets, c'est-à-dire qu'en aval, non pas en amont, évidemment, ça peut nous alerter sur quelque chose d'important qui est en train de se passer, mais en aval, on a des éléments, on a vu très récemment la BBC, par exemple, arriver à portraitiser un terroriste uniquement en étudiant ses profils sur les réseaux sociaux, à rentrer dans son appartement, à savoir quel type de programme il regarde à la télé, comment il vivait, à quelle heure. Donc tout ça, ce sont des sources d'informations qu'il faut évidemment, comme toute source, vérifier, mais qui sont maintenant devenus des éléments indispensables, effectivement, de la construction de quelque chose qui peut ressembler à une vérité.
Dans le prétoire, Sophie Parmentier, vous nous emmenez devant la 24e chambre du tribunal correctionnel de Paris.
Le jeune prévenu fulmine. Ouais, ben je vous préviens, je vais rien payer, c'est tout ce que j'ai à dire. Je croyais pas que je venais aujourd'hui pour qu'on me soutire de l'argent. Ils étaient 7 sur moi, ils m'ont cherché.
Thierry Dupin, âgé de 29 ans, et sa photo, longue barbe, cheveux rasés sur les tempes. Ariane Grissel, vous nous avez rejoint, bonsoir. L'homme était jugé particulièrement dangereux par les autorités.
Ah oui, elles savent dès le départ que Thierry Dupin a pris la fuite avec une carabine. Il a passé 5 ans dans l'armée et a donc de l'expérience en matière de tir. On vient de l'entendre, il n'a d'ailleurs pas hésité à faire feu quand il s'est retrouvé face aux gendarmes.
Troisième jour de recherche dans les Cévennes et toujours aucune trace de Valentin Marconne, 29 ans, qui a tué son patron et un collègue dans une scierie au Plantier dans le Gard.
Ces dernières semaines, nous avons reçu un certain nombre de messages au sujet du profil des agresseurs. Premier message, alors que Radio France n'a jamais daigné donner le nom du tueur du policier Éric Masson, alors que l'on n'a jamais su le nom du tueur de cette femme honteusement brûlée vive, alors que l'on ne nous dit pas le nom du tueur de la jeune fille de 17 ans, votre radio se croit habilitée à marteler le nom du tueur des Cévennes, Valentin Marconne. Comment justifiez-vous ce deux poids deux mesures entre le tueur de policier, le tueur de la femme brûlée vive, le tueur hier soir de la jeune fille et ce tueur des Cévennes lui-même rattrapé par la police? Quel intérêt aujourd'hui à donner son nom? Quel intérêt journalistique? On poursuit avec une autre remarque d'un auditeur. J'écoute assez régulièrement votre radio, je ne connais toujours pas le nom du forcené qui a attaqué au couteau une policière à côté de Nantes, mais le nom bien français de Thierry Dupin qui a tiré sur des gendarmes en Dordogne tourne en boucle, peut-on savoir pourquoi? Et puis un autre auditeur s'interroge pourquoi cette différence de traitement de l'information. Qui discrimine-t-on ? Jean-Philippe Degnaud, pourquoi le nom d'un agresseur n'est-il pas toujours donné à l'antenne ?
Alors là aussi, il faut avoir une réponse multiple, j'allais dire. Il y a déjà la loi, elle est claire, avec des dispositions simples parfois, comme l'interdiction de donner tout moyen d'identifier un mineur. Ensuite, il y a d'autres dispositions dans la loi qui sont un peu plus complexes, qui font appel au respect de la présomption d'innocence, au respect de la vie privée ou du droit à l'oubli aussi. C'est très important aujourd'hui, à l'heure où tout est enregistré et sauvegardé sur Internet. Et alors, évidemment, la question ne se pose pas quand l'autorité judiciaire elle-même donne le nom des suspects. C'était le cas du tueur des Cévennes, Valentin Marconne, ou du fugitif du Périgord, Thierry Dupin. La question ne se pose pas non plus quand il s'agit d'une personnalité publique qui est mise en cause. On imagine bien qu'on ne va pas parler du procès de l'affaire Big Malion avec un certain Nicolas S. Et puis ensuite, il faut prendre en compte d'autres critères. Je dirais qu'il faut avoir une réflexion quotidienne là-dessus. Il y a le degré de gravité des faits d'abord, le degré d'avancement l'avancement du dossier. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser les mêmes questions si on en est au stade de l'interpellation d'un suspect, d'un vague suspect, ou au stade de son procès. Et puis fondamentalement, vraiment, c'est, je vous assure, c'est une question que l'on se pose quasiment à chaque fait divers dans notre service. Est-ce que on va donner le nom de cet individu ? Est-ce que donner le nom de cet individu va apporter un élément d'information essentiel ? Et il faut que ce choix soit tranché et établi à chaque fait divers.
Et puis, ce que l'on peut aussi peut-être préciser pour que les auditeurs le comprennent, c'est que dans le cas de Valentin Marcon et Thierry Dupin, il s'agissait d'avis de recherche et d'appel à témoins lancés par la gendarmerie.
Absolument. L'autorité judiciaire avait clairement donné les noms de manière à ce qu'on puisse les retrouver plus facilement dans le cas où quelqu'un les connaissait et les aurait croisés.
Et qu'ils soient donc relayés sur les médias. Jacques Monin, sur quel principe fondez-vous la divulgation ou non de l'identité des personnes que vous évoquez dans vos enquêtes ?
On va se rejoindre un peu hein, sur ce qui vient d'être dit. Simplement, moi d'abord, je pense qu'il n'y a pas de règle. Effectivement, et chaque cas est particulier.
Donc c'est selon l'éthique du journaliste.
Alors, non, moi, ou s'il y a une règle, c'est que la divulgation de l'identité fait partie du sujet. Enfin, je veux dire, c'est un élément d'information, qu'on le veuille ou non. Pour savoir de quoi on parle, il faut savoir aussi de qui on parle. Mmh. Et si on prend les précédents grands faits divers qu'on a connus ces derniers temps ou il y a longtemps, ils sont tous associés à une personne, qu'on le veuille ou non. Hein, je veux dire, là récemment, Nordal Lelandais, Jonathan Daval, plus ancien Guy Georges ou Omar Radad. Enfin, évidemment, quand ces gens-là étaient en garde à vue puis incarcérés, on a cité leur nom. Parce qu'on considérait que ça faisait partie, et je reviens à ce que je disais au tout début, d'affaires d'intérêt public qui justifier effectivement qu'on en fasse la publicité, non pas pour le vendre entre guillemets, mais la publicité pour le faire connaître, parce que ça faisait partie du sujet. Et si on parle de ce sujet, après tout, parce que c'est toujours l'histoire du thermomètre et de la maladie, si on parle de ce sujet, c'est que la justice a pris des décisions. Placement en garde à vue, incarcération, renvoi devant un tribunal ou une cour d'assises. Et nous, on ne fait que rendre compte des décisions qui ont été prises par la justice. Donc, nous reprocher après coup de dire « vous attentez à la présomption d'innocence des personnes sous prétexte que vous rendez compte de quelque chose qui est un fait public », je trouve que ça se discute. Alors après, il convient que nous fassions preuve de toute la prudence nécessaire et que on explique qu'effectivement, donner un nom ou dire que quelqu'un a été arrêté ne signifie pas que quelqu'un est coupable. Et on rappelle et on passe notre temps à rappeler qu'il est présumé innocent. Mais rappelons-nous quand même fondamentalement que donner le nom d'une personne mise en cause dans une affaire ne revient pas à considérer que cette personne est coupable.
Jacques Monin, y a-t-il des cas où le droit à l'information prime sur le secret de l'instruction ou bien les souhaits d'un procureur ?
Oui. Oui, on l'a vu récemment. Nous, on a construit une émission Secret d'info autour de cette affaire de plantons d'une base de la DGSE qui ont tenté, ou qui sont en tout cas soupçonnés d'avoir tenté d'assassiner une formatrice en coach. Tout ça parce qu'ils pensaient agir pour le compte de l'État alors qu'ils étaient manipulés par d'anciens membres des forces de police, eux-mêmes en lien avec des personnalités publiques. Évidemment, ni le juge n'avait intérêt que nous parlions, ou envie que nous parlions de cette affaire, ni les avocats n'avait intérêt à ce que nous parlions de cette affaire. Et d'ailleurs, ils nous ont reproché de le faire et d'avoir donné les identités des personnes qui étaient mises en cause. Mais il y a un cas de figure que Jean-Philippe n'a pas évoqué dans les exceptions qui font qu'on ne donne pas les noms des personnes mises en cause. C'est quand ils font partie des forces spéciales ou des forces de police, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à s'exposer eux-mêmes et à se mettre en danger sur le terrain. Sauf que dans cette affaire-là, les personnes qui étaient mises en cause voulaient justement utiliser leur qualité d'anciens policiers ou de membres soi-disant de la DGSE pour éviter justement d'apparaître publiquement. Il se trouve que quand on est planton de la DGSE, on ne fait pas partie des forces spéciales et nous avons considéré que dans ce cas-là, leur identité pouvait être divulguée.
Jean-Philippe Degnaud, chaque vendredi, la chronique Dans le prétoire propose le décryptage d'un procès ou d'une enquête. Et dans cette chronique, vous préservez l'anonymat, donc on peut vous répondre deux poids, deux mesures.
Ah mais oui, je revendique deux poids, deux mesures, bien évidemment, surtout que nous avons décidé depuis 2 ans de présenter dans le prétoire des affaires du quotidien, c'est-à-dire des petits dossiers, et de raconter à l'antenne comment sont traités ces petits dossiers par la justice pénale ou la justice civile. Aussi, il s'agit bien souvent de dossiers dans lesquels les faits sont vraiment minimes ou de dossiers civils qui engagent vraiment les vies privées. Donc là, nous vous interdisons, et ça n'a, pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, ça n'a aucun intérêt de donner les noms.
Communiquer ou non l'identité d'une personne dans le cadre d'un fait divers ou d'une enquête ne fait pas l'objet d'une charte déontologique spécifique au sein des rédactions de Radio France, mais on observe que dans la presse écrite régionale, à Ouest-France par exemple, eh bien la rédaction s'est dotée d'une charte des faits divers fondée sur le respect de la personne. Quel regard, tous les deux, portez-vous sur ce type d'initiative, Jacques Monin ?
Alors moi je trouve ça très bien. Je veux dire, la charte de Ouest-France, elle est bien faite en plus. Je pense qu'on pourrait la signer. Globalement, au niveau des valeurs, on s'y retrouve. Je pense que le fait, à un moment donné, d'expliquer quelles sont ces valeurs, pourquoi on fait les choses et quels sont les critères qui régissent notre déontologie, après tout, moi, je pense que c'est quelque chose de positif qui permet aux gens de savoir où ils vont et pourquoi ils le font. Après, sur le fond, ils sont pas très éloignés de ce qu'on vient de raconter là. C'est-à-dire que si on la lit, et je l'ai lu, on considère qu'on peut donner le nom d'une personne à partir du moment où elle est mise en examen et, en majuscule, écrouée. Je pense que ça se discute. Mais dans la même charte, on vous explique qu'il y a effectivement des exceptions, qui sont notamment les affaires publiques, les personnalités publiques qui sont soumises à l'examen critique, ça c'est normal. Mais on explique que quand il y a doute, on doit en discuter au sein de la rédaction. Ce qui veut bien dire que chaque cas est quand même un cas particulier. Mmh. Et il est précisé dans cette charte, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que le respect de la présomption d'innocence n'interdit pas de donner les noms. Donc moi, cette charte, je la trouve plutôt bien faite.
Jean-Philippe Deniaud.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jacques. Une charte, ça doit être un guide, en fait, une charte, et non pas un code strict. Un guide vers lequel on va développer notre activité d'enquêteur journalistique. Mais je voudrais dire juste sur cette charte qui est effectivement très bien faite, que elle est déjà un petit peu dépassée, qu'il faudrait peut-être la renouveler, notamment sur la question du droit à l'oubli, parce que évidemment, le Ouest-France dit que on peut effacer le nom d'une personne qui a été définitivement condamnée au nom du droit à l'oubli. Sauf que effacer le nom après coup, aujourd'hui à l'heure d'Internet, ça ne sert plus à rien parce que tout est déjà enregistré à jamais sur la toile.
Outre l'identité d'un meurtrier, des auditeurs nous demandent pour quelle raison l'origine d'un suspect n'est pas mentionnée et ils se réfèrent à l'agression raciste de Sergi Pontoise au début du mois. Alors, un bref rappel des faits. Un livreur noir à vélo a été agressé alors qu'il récupérait une commande dans un établissement de restauration rapide. L'agresseur l'a frappé, a proféré des injures racistes. Une femme a filmé la scène. L'agresseur l'a alors également prise à partie et insultée avec des propos racistes. Et le traitement journalistique de cette agression raciste a soulevé de nombreuses remarques. Je suis choquée par l'agression dont a été victime un livreur. Je suis encore plus choquée de la manière dont vous relatez l'événement. En faisant la rétention de l'origine de l'agresseur, vous donnez l'impression d'une information orientée. C'est néfaste pour la crédibilité du journalisme. Et puis un autre auditeur ajoute « Je comprends bien que cela part d'un bon sentiment et que votre rédaction ne veut pas en rajouter au racisme anti-arabe. Ce choix me paraît dramatiquement contre-productif. Votre autocensure provoque défiance et colère chez de nombreuses personnes. Je suis un homme de gauche et cela me rend malade de voir à quel point vous faites des cadeaux à l'extrême droite tout en croyant bien faire. » Alors Jean-Philippe Deniaud, comment analysez-vous l'incompréhension des auditeurs et quelle réponse peut-on leur apporter ?
Moi j'ai envie de répondre, ne nous trompons pas de sujet. Nous sommes ici dans l'agression d'un homme parce qu'il est noir, par un autre homme, quelle que soit l'origine de ce dernier, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, je ne sais quel autre signe distinctif. Et moi, j'ai envie de retourner la question à notre auditeur. Est-ce que mentionner le fait que l'agresseur était arabe, pour reprendre la terminologie, n'aurait pas projeté ce fait divers dans une dimension totalement irréelle ? Est-ce que s'il avait été de type européen, il aurait fallu le préciser ? Je vais vous dire franchement, dans notre domaine, le fait divers, croyez-moi qu'on ne cherche vraiment à faire de cadeaux à personne. On retrouve d'ailleurs dans les prétoires des tribunaux des hommes et des femmes de toutes origines, de tous les milieux sociaux, de toutes les classes sociales.
Jean-Philippe Deniaud, merci. Merci également à vous, Jacques Monin. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. Si vous souhaitez faire une remarque sur une émission, poser une question sur la ligne éditoriale de France Inter, vous pouvez nous écrire sur le site médiatrice de Radio France. À la réalisation de cette émission aujourd'hui, Anne-Cécile Perrin, et à la technique, Florian Dorimini.